Radio Barque, notre dixième de la saison, deuxième partie. Après un grand sujet sur le grand Johnny, nous revenons sur des sujets un tout petit peu plus habituels chez nous, à savoir un billet contre regard, comme d'habitude, Michel, que tu as écrit et qui s'intitule « Les métropoles et leurs effets sur les territoires avoisinants ».
Alors, on change radicalement de sujet. Hein.
Oui, ben on revient sur Terre, mais il faut vivre sur Terre.
Il faut vivre aussi,
aussi
sur Terre. Nos auditeurs ne sont pas forcément informés du fait que le 6 juillet, c'était 2017, donc c'est hier, quoi. Hein. L'État et les métropoles ont signé un pacte qui marque un tournant dans la réforme des territoriales, et qui est un pacte qui reconnaît aux métropoles, comme celle de Toulouse et de Montpellier, on en a deux dans la région Occitanie, un rôle moteur de croissance qui engage leur responsabilité vis-à-vis des territoires avoisinants.
Oui, alors précisons, donc, métropole, c'est quelque chose qui a à voir avec l'intercommunalité.
Ah oui, bien sûr.
Il faut bien le préciser.
Ce sont des
le
grosses...
sens qu'on lui donne au sens administratif.
Bien sûr, c'est pas les métropoles au sens urbain du terme, hein, c'est au sens institutionnel, c'est-à-dire une intercommunalité qui va largement au-delà des anciennes communautés urbaines, en fait, des comités d'agglomération, et qui rassemble bon, le grand Montpellier, hein, jusqu'à 7, hein, et le grand Toulouse, etc. Et mais aussi Perpignan, qui a un statut
qui est devenu
le grand Perpignan. Oui. Hein. Donc voilà. Et alors il était bien. Donc, justement,
après le grand Johnny, le grand Perpignan. Excusez-moi.
Oh mon Dieu, oui non. Ouais, j'aurais dû effectivement éviter ce qualificatif pour éviter ce genre de comparaison un peu, comment dirais-je. Bon, je donne pas le qualificatif, Jean-Claude, mais je te dirai après ce que j'en pense.
Scabreuse.
Hors micro. Donc, alors une note justement est sortie, hein, une note qui fait le point justement sur cette question-là. Est-ce que les métropoles, effectivement, produisent de l'emploi sur les territoires avoisinants? Est-ce qu'elles jouent un rôle moteur? Une note fort intéressante. Alors, je ne vais pas en donner la lecture, hein, je ne vais pas non plus en donner les détails. Cette note, je renvoie nos auditeurs à mon blog, en fait, et à oublier que j'ai rédigé sur le sujet et qui résume cette note et qui donne en plus cette note en lien, en copie. Ce qu'il faut retenir, en fait, de cette affaire, c'est que si la dynamique métropolitaine est importante, à savoir que quand on compare la croissance de l'emploi des métropoles par rapport à la croissance de l'emploi au plan national, on constate effectivement un différentiel positif en faveur des métropoles. C'est-à-dire que dans les métropoles, l'emploi croît plus vite que dans l'ensemble du territoire national. C'est indiscutable, c'est vérifié dans les faits. Bon, 1,4% en moyenne pour les métropoles, hein, comparé à 0,8% sur l'ensemble de notre
tournoi. Presque du simple au double.
Il n'y a pas photo. Hein. L'analyse se confirme aussi sur la périphérie des métropoles. La périphérie, hein, c'est-à-dire à savoir que la périphérie des métropoles, c'est-à-dire, je sais pas, je prends Castelnau, en fait, ou je ne sais quel village autour de Montpellier, hein, dans cette périphérie qui est...
Ce qui correspondrait aux grandes banlieues, un peu.
Voilà, c'est ça, bon, la dernière couronne, en fait, de la métropole, quoi. Hein. Là aussi, on constate que le taux de croissance de l'emploi est systématiquement plus élevé que dans les couronnes périurbaines qui n'ont pas de pôle métropolitain. En fait, donc, les métropoles, sur leur couronne, hein, produisent des effets de croissance de l'emploi plus importants, hein, je parle des effets de croissance de l'emploi, que ben, dans des périphéries qui n'ont pas de métropole.
En fait, il se produit ce qui se produit en France depuis fort longtemps, dans un pays aussi centralisé que la France, avec la capitale qui, depuis fort longtemps, aspire et les richesses et l'emploi en son sein, en quelque sorte.
Mais, et c'est là où je...
Mais.
La question qui était posée, c'était est-ce que les métropoles ont des effets de croissance d'emploi sur les territoires avoisinants?
Voilà.
On pourrait prendre Montpellier, par exemple, et l'effet de la croissance de l'emploi sur la métropole montpelliéraine sur le Biterrois, par exemple.
Là, hein, on s'aperçoit que
et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de métropoles. Il y en a qui, effectivement, ont des effets positifs. Hein, Aix-en-Provence et Nice, par exemple.
C'est-à-dire qui essaiment autour d'elle.
Et il y en a d'autres qui n'ont strictement aucun effet sur, effectivement, les territoires avoisinants. Et il y en a deux qui nous intéressent de près, puisque ce sont deux métropoles qui sont dans notre région Occitanie,
Toulouse et Montpellier.
Toulouse et Montpellier,
donc,
contrairement aux autres métropoles,
hein,
aspirent tout pour elles. Ce qui, infirme totalement, hein, la théorie, en fait, de la percolation. Alors, je dis percolation parce que quand j'étais aux affaires, en fait, à l'époque, à la région, je m'occupais, entre autres, d'affaires économiques.
Hein. Ah bon, je croyais que tu t'occupais de la cafetière et du percolateur.
Entre autres, hein, il y avait en face, hein, si je puis dire, hein, Montpellier, Languedoc-Roussillon, Technopole, qui était le district de l'époque, piloté par Georges Frêche. Et Georges Frêche avait une théorie, en fait, en matière d'aménagement du territoire. Il disait, plus on concentre en fait de ressources sur le pôle montpelliérain, plus le pôle percole, enfin, comme un percolateur, voilà. C'est-à-dire qu'il diffuse, hein, oui. Il diffuse bon sur l'ensemble de son territoire.
Hein. Il semble que l'effet percolateur,
comme l'effet de ruissellement. Enfin, on a parlé récemment du ruissellement d'ailleurs à propos de la richesse. Plus la richesse des plus riches croît, et plus bon, elle ruisselle vers le bas. Quoi,
oui,
hein. Donc toutes ces théories là
en matière
d'emploi sont effectivement largement à démontrer. Et en tout cas, à revoir. Ouais. Donc à suivre de près. Oui. Et en tout cas, bon, que nos auditeurs aient bien à l'esprit cette idée générale. À savoir qu'on est dans une région, contrairement à d'autres, où l'effet métropolitain sur les territoires avoisinants, par exemple la métropole de Toulouse sur le Lauragais, en termes de croissance d'emploi, est nul.
C'est peanuts, si l'on peut dire. Alors pour terminer, le prix de l'humour à notre ex-président de la République, François Hollande, on lui a attribué pour quelques remarques ou les petites plaisanteries telles qu'on les connaît depuis fort longtemps. Mais Michel, tu y ajoutes quelque chose qui mérite d'être souligné.
Oui, parce que
pour l'attribution d'un prix de l'humour.
Oui, je crois que l'on se moque injustement de François Hollande pour avoir remporté le prix en question dont tu viens de nous parler.
Pour quelques traits d'esprit, on va dire.
Alors, c'est vrai que certaines de ses pensées, hein, aucune référence à Blaise, hein, Pascal, je veux dire, hein, appartiennent désormais au patrimoine immatériel et comique de l'esprit français. Ça, nul ne saurait le contester. Hein. Qui eut jamais exprimé publiquement, par exemple, hein, cette hilarante réflexion sur l'exercice solitaire du pouvoir. J'ouvre les guillemets. Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même, dans un dialogue singulier. Comme la palissade, en fait, pour un homme politique de ce niveau-là, je n'ai pas trouvé mieux dans l'histoire, effectivement, de la pensée en fait, républicaine française.
Ça me rappelle cette boutade, c'est mon opinion et je la partage.
Ou cette amusante confession, aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé. C'était juste avant, effectivement, qu'il déclare solennellement qu'il ne se représenterait pas aux élections. Mais effectivement, Jean-Claude, l'enfermé dans ses seules petites hollanderies serait injuste, alors même qu'il est à l'origine quand même,
lui aussi,
faut le dire.
Lui aussi, il entre dans l'histoire.
Il est à l'origine de la plus importante et loufoque révolution politique jamais réalisée dans ce pays depuis l'avènement de la Ve République. Qu'on en juge. Terminer un mandat présidentiel en envoyant sur orbite un Hamon et au tapis son parti, tout en offrant à Macron, le nouveau président, les moyens de désinguer tous les autres partis, c'est pas à la portée du premier homme politique
non, c'est
venu.
C'est une performance, hein, on est bien d'accord.
Non, mais ce fut du grand art.
Oui,
et là où il a rajouté encore plus dans la production artistique, si je puis dire, en fait, c'est ce pied donné en fait à l'histoire dont il ne reste plus que le fol pour oser l'incarner, hein, ce qui fut effectivement. Et qui n'est plus, désespérément plus, et qui se terminait vraiment en mauvaise blague. Enfin, la dernière de François, dit de lui ses amis, qui n'ont pas forcément, eux, aujourd'hui, le sens de l'humour.
Oui, et remarquons quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en plus de tout ce que tu viens de dire, le PS, où est-il aujourd'hui ? Le siège du PS, quel est son avenir ? Enfin, on est dans une série de catastrophes.
Ah oui, en cascade d'ailleurs, on ne sait pas. D'ailleurs, on se demande même si la série est finie. Je ne crois pas. En fait, voilà. Attendons les événements politiques futurs. Je crains qu'effectivement cela continue.
Et avant de marquer une deuxième pause, rappelons que M. Hamon, que tu as cité lui-même, lui se cherche encore, puisqu'il a créé un mouvement du 1er juillet au 1er juillet,
oui.
Qu'il débaptise quelques mois après pour partir sur Génération
avec un S.
Voilà.
Oui. Ce qui est très parlant, hein, personne n'a rien compris voilà, en fait,
Alors que s'il l'avait baptisé 6%, je pense que ça aurait été beaucoup plus près de la réalité, puisque ce fut son score à la présidentielle.
Oui, Génération 2.6,7. Oui.
Voilà. Et on marque une deuxième pause avant de retrouver notre invité du jour, Manuel Garcia.